Le thème, c'est quel salut? Quel salut dans l'islam? Quel salut dans la foi chrétienne? Voilà, c'est toujours difficile de commencer. Voilà. Mais je vais commencer simplement, vous savez, par cette question. Alors, je me présente rapidement. Je suis Jean-Yves Nériec et je fais partie de l'association Mission Angélus. Et donc, Mission Angélus, on fait de la mission de rue auprès des personnes musulmanes. Et on va dans des quartiers où ils sont en majorité. Et donc, on fait souvent un délit de faciès, vous voyez. C'est-à-dire qu'on va chercher. Alors, souvent, on nous dit, oh, vous êtes courageux, vous allez vers les musulmans plutôt que vers toutes les personnes, etc. Ben, je leur dis, c'est pas une question de courage. Je dirais même l'inverse. C'est une question de facilité. Pourquoi ? Parce qu'une personne musulmane, eh bien, pour lui déjà, quand on parle de Dieu, il est à l'écoute. Ou en tout cas, il est attentif. Pour lui, ça lui dit quelque chose de très fort. Voilà. L'islam peut être tout ce qu'on veut, n'empêche que pour lui, Dieu, ça va être important. Alors que si vous rencontrez d'autres personnes occidentales, eh bien, si vous l'abordez et que vous lui dites « Est-ce que vous avez 2 minutes pour parler de Dieu ?», souvent, il va vous mettre ça au placard. Alors, pas tout le temps, mais vous savez, on marche souvent sur des 80-20%. Je dirais que 80% des Occidentaux vont dire « Non, non, ça ne m'intéresse pas », alors que 80% des personnes musulmanes vont dire « va trouver de l'intérêt ». Même s'il n'est pas d'accord, eh bien, on peut même ne pas du tout être d'accord. Le gars, il part pas, hein. Il est toujours là, il reste. Voilà. Et même si je suis très franc avec lui. Et vous savez, dans Mission Angélus, on fait une formation, et ces formations sont basées sur des questions. Et donc, les questions, il y en a une, comment tu fais pour aller au paradis? Et vous avez vu qu'on avait fait les joutes oratoires, il y a eu cette question du salut. Effectivement, c'est la question la plus importante. Hein, c'est le sommet, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a chanté un Gloria. Pourquoi ? Parce qu'on est là pour notre salut, mais avant tout pour la gloire de Dieu. Lui rendre ce qu'on est. Voilà. Et donc, la question du salut, c'est vers quoi tout le monde devrait tendre. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est très égoïste. Eh bien non, parce qu'on est fait pour ça, c'est tout. On est fait pour le bonheur, et que le bonheur, eh bien, il est qu'en Dieu. Donc c'est normalement, si on laisse aller notre cœur vers la paix, on va être attiré vers Dieu. Et si on est attiré vers Dieu, on va être attiré vers le Christ d'une manière naturelle, au-delà du surnaturel. Et c'est un petit peu cela. Eh bien, je vais lui poser cette question-là, mais je vais essayer aussi de partir sur des... Vous savez, il y a une loi naturelle dans le cœur de tout homme. On est tous faits pour deux choses. Aimer et connaître. Et donc, je vais essayer de justement, eh bien, de le tirer vers cet amour pour lequel il est fait, mais aussi pour la connaissance. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Si l'islam existe, il y a 3 raisons, hein, en gros. Mais, déjà, parce qu'on ne peut pas en sortir. Deuxièmement, c'est parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Et troisièmement, je crois que c'est le point le plus important. C'est parce que c'est l'ignorance. Si toute personne musulmane lisait le Coran, je pense que la moitié, dans l'année qui suit, sortirait de l'islam. Parce qu'ils comprendraient bien que ça ne correspond pas à ce qu'ils cherchent de Dieu. L'image de Dieu, ça ne peut pas être celle-là, ça ne peut pas être celle que nous donne l'islam à travers les écrits du Coran. Alors je parle beaucoup du Coran parce que justement, l'important c'est d'être dans l'objectivité. L'objectivité, pourquoi ? Parce que ça me permet de ne pas être dans la contradiction. Je suis sur son terrain. Il peut me dire des choses, comme tout à l'heure, islam, religion de paix, et puis je suis sûr d'être sauvé. Moi, je vais lui montrer qu'à travers le Coran, c'est pas vraiment ça. Quand il me dit le djihad, c'est spirituel, moi, je sors le Coran et je lui dis, montre-moi où c'est marqué. Par contre, le djihad armé, là, je peux te le montrer. Oui. Et là, eh bien, le but de la rencontre, de la mission, eh bien, c'est de pas se laisser tourner en rond, vous voyez, avec du blabla. On peut discuter 10 ans avec une personne musulmane et en fin de compte, on n'aboutit à rien parce qu'en fin de compte, on est dans l'opinion, dans ce qu'on croit. Non, non. Alors dans l'islam, justement, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'unité, si vous voulez. Et il n'y a pas un magistère central qui fait qu'on va tous se rallier alors que nous, on a ça. Mais par contre, j'ai quand même le Coran. Voilà. Et il va faire autorité. Même si je le laisse sous la main, là, le gars, il ne parle plus de la même manière, déjà. Alors si je le sors comme ça, déjà, il va baisser d'un ton. Vous voyez, c'est pas que je veux l'humilier, mais je veux qu'on soit en vérité. Marre de j'ai pas de temps à perdre. On parle de Dieu, le temps presse. Jésus peut revenir demain. C'est aujourd'hui que ça se passe. Voilà. Et je vais pas attendre, et puis me laisser sortir un petit peu du sujet, etc. Donc la question, elle est là. Pourquoi je pose une question? Vous voyez, on a 15 questions, là vous en avez 12 là dans votre petit kit de la mission, du missionnaire, vous avez 12 questions. Et donc si je pose une question, ça permet d'aller dans un sujet bien précis. Après, il peut me dire, oh, bah, Dieu n'a pas de fils, vous avez falsifié les écritures, il n'a pas été crucifié. Je lui dis, ça ne m'intéresse pas. Comment tu fais pour aller au paradis? Et là, je vais insister. Et je lui laisse la parole. Et vous voyez, c'est là que c'est fort, c'est que la question, ça me permet de rester dans l'esprit de l'évangile. Je suis à l'écoute. Ah, vous savez, aujourd'hui, c'est le Dieu écoute. Hein, chez les cathos, ah oui, il faut être à l'écoute. On dit rien sur Dieu, mais alors qu'est-ce qu'il faut être à l'écoute, hein? Ben, stop de ça. C'est-à-dire que c'est bien d'être à l'écoute, mais pouvoir aussi répondre. Parce que le catholique, ben, le chrétien en général, eh bien, il a une parole, et cette parole, elle peut sauver. C'est une parole de vie éternelle. Voilà. Quand, à un moment donné, il y en a plein qui partent, eh bien, Jésus dit aux apôtres, vous aussi, vous voulez partir? Et en fin de compte, Saint-Pierre répond, Pierre à l'époque, il répond simplement, non, tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, ça, ce qui est dit de Jésus, il est dit de tout chrétien. Parce que par le baptême, vous avez revêtu le Christ. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Si on a revêtu le Christ, c'est que l'Esprit Saint nous est donné pour justement avoir cette parole de vie éternelle à la suite du Christ. Bien sûr que c'est pas nous. C'est pas Jean-Yves, Paul, Pierre, Jacques. Non, c'est Jésus en moi qui a ces paroles de vie éternelle. C'est pour ça qu'il faut que j'enracine mes pieds dans cette vie éternelle. Et donc, je vais parler du salut. Parce qu'il nous est effectivement donné dans le Christ. Mais, donc je pars sur cette question, comment tu fais pour aller au paradis? Vous savez, la personne musulmane, la première chose, dit, ah bah, c'était dit tout à l'heure, hein, mais voilà, bah, je fais mes prières, je fais mon ramadan, je fais la zakat, la salat, eh bien, l'aumône et la prière. Et je lui dis, est-ce que tu penses vraiment? Et il vous dira toujours ça. Et des fois, il oublie quelque chose, c'est les bonnes œuvres, mais il finit par le dire quand vous insistez. C'est-à-dire, oui, mais t'es sûr que tu vas au paradis en faisant tes prières? Tu es en train de payer Dieu à coup de prière? Ton paradis, tu vas l'obtenir comme ça? Déjà, je comprends pas. Et ça, faut le dire comme un refrain. Je ne comprends pas. Et effectivement, ça veut dire que tu es dans l'auto-rédemption. Tu te sauves toi-même avec tes actions. Tu penses que c'est comme ça que tu te payes un billet pour aller au paradis? Dis non, non, faut aussi faire des bonnes actions. Mais là, c'est pareil. Tu me parles de tes actions, voilà. Et en fin de compte, à force d'insister, non, je ne comprends pas. Effectivement, il va finir par le reconnaître. Et si j'insiste lourdement, et c'est là la clé, ça c'est une vraie clé, et aujourd'hui on ne sait pas le faire encore trop, ça va venir. Il faut être très insistant. Vous connaissez, pour ceux qui m'ont déjà entendu, il y a un charisme essentiel à la mission. Alors moi je l'ai depuis que je suis né pratiquement, je suis né comme ça, c'est le charisme de la lourdeur. Faut être très lourd, quoi. Un lourdingue, quoi. Vous voyez, le mec, il insiste. Il a rien compris. Non, non, j'ai rien compris. Vas-y, redis-moi comment tu fais pour le paradis. J'ai toujours pas compris. Mais il faut être très, très insistant. Ça fait mieux dans le 16e de dire insistant que lourd. Ça, c'est plus dans ma petite banlieue qu'on dit comme ça. Oh, t'es lourdingue, toi. Ici, on dit, oh, t'es insistant. Ça va pas, ça. Non, non, mais je plaisante, mais il faut être insistant. Et là, à un moment donné, pourquoi faut être insistant? Parce qu'il va vous dire exactement ce que vous voulez entendre, et c'est ce que disent tous. Il dira simplement, ben, en fin de compte, on n'est pas sûr. Comment ça, t'es pas sûr d'aller au paradis? Non, on n'est pas sûr. Parce que Dieu seul sait. Et puis, alors, il peut vous rajouter en plus, Mektoub, c'est écrit. Alors là, je lui ai dit, bah, laisse tomber si c'est écrit. C'est que tu sais, il sait déjà pour toi ce qui va t'arriver. Donc, quoi que tu fasses, tu iras en enfer ou au paradis. C'est déjà décidé. Bah, viens, on va prendre un jambon beurre, une bonne bière, et on va aller discuter au bistrot, on va faire la fête. Parce que de toute façon, ça ne changera rien. Vous voyez la contradiction déjà. Et donc, il ne sait pas. Et c'est pour moi le moment sur lequel je vais. C'est une articulation. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir prendre le relais. Vous voyez, dans la question que je pose, il y a trois parties. La première, c'est sa réponse. La deuxième, c'est ma réponse de chrétien. Et je vais lui dire, tu sais, moi, en tant que chrétien, voilà le chemin de la vie éternelle. Et la troisième partie, parce que je vais lui dire des choses bien plus grandes que ce qu'il va me dire, non pas parce que je suis plus grand que lui, mais parce que je crois en celui qui est le Sauveur. Voilà. En celui qui est le Tout-Puissant, le vrai Tout-Puissant. Et donc, effectivement, je vais dire des mots eh bien, de vie éternelle. Et je ne tombe pas, je peux peut-être plus tard, mais dans le témoignage personnel, je ne vais pas tomber dans le témoignage personnel parce que c'est très subjectif. Et puis lui aussi, il a son témoignage. Ouais, moi, je suis musulman, je fais ci, je fais ça. Putain, le mec, il frime hein, quand il parle de l'islam. Pourquoi ? Parce que ça paraît très viril. Vous voyez ? Alors, c'est fait pour les hommes, les bons barbus et tout. Voilà. Et donc, il a son témoignage. Donc, on est dans la subjectivité et là, on ne s'en sortira jamais. Par contre, le fait de dire des phrases de l'évangile, mais quand je dis des phrases, excusez-moi, des paroles de Jésus dans l'évangile. Mais quand je dis des paroles de Jésus dans l'Évangile, il faut bien comprendre que c'est des paroles de Dieu dans l'Évangile. Et donc, à partir de là, déjà, ça va l'imprégner. Parce qu'il ne peut pas entendre une parole de l'Évangile quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie » et que je vais lui redire « Tu sais ce que nous dit Jésus ?» Il nous dit simplement « Je suis la résurrection et la vie. » Eh bien, s'il entend ceci, obligatoirement, si vous voulez, eh bien, ça aura son effet. Comme la pluie qui tombe sur la terre, elle a son effet, elle porte du fruit, elle permet. C'est ça, c'est ce qu'on appelle cette pluie qui tombe. Voilà. C'est simplement, en fin de compte, la grâce. Mais on ne s'en rend pas compte. Et la grâce va pleuvoir sur lui parce que j'ai prononcé les paroles de Jésus. On ne se rend pas compte. Et donc, je peux prendre même, vous savez, quand je lui dis ça, je peux le dire doucement ou je peux le redire plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai des petits dépliants. J'en ai un, on pourra vous le donner sur le chemin de la vie éternelle. Et quand vous le tournez, eh bien, il y a marqué simplement la réponse. La vie éternelle, c'est qu'il croit en toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est cela, tu vois, la vie éternelle. C'est d'accueillir celui qui est envoyé par le Père, c'est le Christ, le Messie. Voilà. Et donc, je vais lui dire des choses, vous voyez, qui sont bien plus grandes. Hein, tout à l'heure, j'ai rencontré une personne qui hésite. Qui est un petit peu dans l'islam, encore quand même, mais je pense pas pour longtemps, parce que c'est un joli cœur, c'est quelqu'un de beau, intérieurement ça se voit tout de suite. Et la seule chose que je lui ai dit, on avait 5 minutes, eh bien, qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit des paroles de salut, simplement. Je lui ai dit, tu sais, il y en a qu'un qui a vaincu le monde et qui a vaincu la mort, c'est le Christ. Et donc, aux musulmans, une fois qu'il m'a dit « Ouais, en fin de compte, on n'est pas sûr », je vais simplement pouvoir lui dire « Tu vois la différence entre toi et moi. Moi, je ne suis pas plus grand que toi, mais j'ai plus que toi. C'est le Christ. Et avec lui, je suis sûr de la vie éternelle. » Alors, beaucoup de chrétiens me disent « Ouais, mais on n'est pas sûr. » Ça m'a été dit encore tout à l'heure. Hein. « On n'est pas sûr parce que bon, il y a quand même des chrétiens en enfer. » Ah, bah oui, hélas. Hélas, bien sûr, l'enfer existe aussi pour les chrétiens, et encore plus parce qu'il leur sera plus demandé, parce qu'ils ont beaucoup plus reçu. Mais je suis sûr de celui qui me sauve. Quand il me dit, et je suis sûr des paroles, quand il dit, celui qui sera baptisé, celui qui croit en moi et sera baptisé sera sauvé. Il dit pas, sera peut-être sauvé. Il dit, sera sauvé. Je ne peux pas remettre ça en cause. Et au bon larron, il dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Quand Jésus dit ça, c'est au présent. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de monter au ciel pour avoir la vie éternelle. On l'a aujourd'hui. Après, il dit « Ouais, mais attends, non, il n'y a pas de mais. » Oui, non, peut-être. C'est sûr. Après, si on va en enfer, c'est parce qu'on s'est appuyé sur nous. Ouais, j'étais sur Aletheia il n'y a pas trop longtemps parce que je reçois les notifications. Il dit il y a deux conditions pour je ne sais pas quoi, et je ne me rappelle plus, mais les deux conditions étaient intéressantes. C'est toujours se méfier de soi, de faire confiance à Dieu. C'est exactement ça le salut. Je mets toute ma confiance dans le Seigneur. Je ne peux pas douter de sa parole. Après, si ma foi n'est pas vivante, effectivement, je n'irai pas au paradis. Mais ma foi, si j'ai vraiment la foi, eh bien, obligatoirement, elle va engendrer une action, des actes d'amour, etc. Donc je suis sûr. Il ne faut pas douter de ça. Pourquoi ? Parce que moi, je ne vais pas suivre quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Vous voyez ? Il y a une personne musulmane, un jour, qui est devenue chrétienne. Et je vous l'avais raconté l'année dernière, je crois, mais c'est tellement... Je crois qu'on peut la... Moi, je peux me la raconter tous les jours, cette paroisse, cette histoire-là. C'était... Puis on peut la retrouver sur Internet. C'est sur Internet qu'on trouve tout ça. Eh bien, si vous voulez, cette personne devient chrétien et il finit par aller voir l'imam avec lequel eh bien, il allait dans la mosquée pour prier tous les vendredis, etc. Donc, il va revoir cet imam une fois chrétien. Et il lui raconte cette histoire. Il dit, je voudrais te raconter une histoire. L'imam lui dit, bah, raconte. Il dit, mais tu sais, c'est l'histoire d'un gars qui veut aller à Marseille. Il est à Paris, il veut aller à Marseille. Et puis, il veut prendre le car. Et il va à la station gare routière. Et là, il y a plein de cars. Et puis, ça va dans toutes les directions. Il voit celui de Marseille. Le car est en train de faire chauffer le moteur. Il démarre. Et il y a le chauffeur qui est là. Et donc, à la porte, il va lui demander, « Vous allez où ?»« Moi, je vais à Marseille. » Et le chauffeur de car lui dit, « Non, je ne sais pas où je vais. » Il dit, « Comment ça, vous ne savez pas où vous allez ? Vous venez de démarrer votre car. C'est bien pour partir ?»« Oui, je pars. » »« Mais vous allez où ?»« Je ne sais pas. » »« Comment ça ? Mais moi, je vais à Marseille. Vous savez bien, puisque vous êtes le chauffeur. »« Non, je ne sais pas. Dieu seul sait, » qu'il lui dit. Voilà. Eh bien, c'est ça, l'islam. Il vous promet un paradis qu'il ne pourra jamais donner. Vous voyez ? Et en fin de compte, il y a une illusion. On parle toujours de paradis, de paradis, de paradis. Mais en fin de compte, pourquoi on ne peut pas donner le paradis quand on est dans l'islam, recevoir le paradis ? Bah parce qu'il n'y a pas de rédemption. Voilà, et on ne se sauve pas soi-même. Personne n'a vaincu la mort. C'est sûrement pas un homme qui peut vaincre la mort. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voilà. Mais en même temps, il fallait que l'homme le réalise. Parce que c'est dans la condition humaine qu'il faut le sauver. Mais ce que l'homme ne pouvait pas réaliser, cette victoire de la mort, bien Dieu l'a réalisé en prenant la condition de l'homme. C'est fort quand même. Voyez. Et ça, je peux lui dire. Voyez. Donc j'ai rajouté une question, parce qu'on a maintenant on a 15 questions, vous voyez, on n'arrête pas de grandir. Et la dernière question, c'est pourquoi la mort, la souffrance et le péché ? En fin de compte, il n'y a que le chrétien qui peut répondre à ça. Voyez. Parce qu'on croit justement au péché originel. Voyez, on sait bien qu'on n'est pas fait pour la mort, mais on est fait pour la vie. On n'est pas fait pour le péché, mais on est fait pour la grâce et la vie en Dieu. Voyez. Et donc, eh bien lui, il ne sait pas tout ça. Il n'a pas de réponse. Voyez, même, vous allez voir que, en fin de compte, dans l'islam, le péché, le mal, eh bien, c'est toujours, ils vous diront, c'est une épreuve que Dieu nous donne. Ça voudrait dire que Dieu a permis ou a même introduit le mal ou la souffrance ou la douleur, etc., les épreuves, dans le monde pour nous mettre à l'épreuve. Eh bien, ça voudrait dire que, et c'est ça, vous vous rendez compte, c'est grave, c'est-à-dire que Dieu, eh bien, il donne la vie, il donne la mort. Ben non, nous, l'auteur de la mort, eh bien, c'est le péché, mais l'auteur du péché, celui qui l'introduit, c'est le serpent. Voilà. Et donc, nous, on s'est laissé aller. Mais pourquoi il y a la possibilité de la miséricorde ? C'est qu'on n'est pas 100% responsable. Comme l'ange, par exemple, qui est devant la face de Dieu et qui dit non à Dieu. Ben lui, pour lui, il ne peut pas y avoir de miséricorde. C'est pour ça que soit il reste dans la vision béatifique, soit il va directement en enfer. Nous, il y a la possibilité parce que, eh bien, il y a cette part qui fait qu'on s'est laissé avoir, abusé, voilà, et qu'on peut revenir à Dieu. Mais en fin de compte, on n'y arrive pas. Et c'est ça, vous savez, même dans l'islam, en fin de compte, le grand malheur, c'est qu'on est impuissant pour revenir à Dieu, pour aller à Dieu. Ben, nous aussi. Mais il y a quand même Jésus qui nous dit « Je suis le chemin ». Alors Jésus, il dit beaucoup de choses, mais il les réalise. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire, il ne fait pas que parler Jésus. Il y a des paroles et des actes. Vous voyez, c'est ça aussi la différence, c'est que dans l'islam, il y a beaucoup de paroles. Paroles, paroles, paroles. Mais les actes, moi, je les cherche. Et d'ailleurs, il y a une question, je lui fais la remarque, mais tu parles toujours de la miséricorde. 114 sourates. Et sur les 114, vous savez, vous avez une introduction avec marqué Dieu est le miséricordieux, le tout miséricordieux, et blabla, blabla. Il y en a 113 comme ça. Mais je lui dis, montre-moi un acte miséricorde de ton Dieu. Silence. Il ne peut pas me répondre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne fait pas simplement de dire, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais en même temps, il va vaincre la mort. Et donc, ce qu'il dit, il peut le réaliser. Et c'est pour ça que, vous voyez, dans l'islam, quand je dis, il propose un paradis qu'il ne peut pas donner, c'est bien en rapport avec la foi chrétienne, où justement Jésus nous donne, parce qu'il le réalise en lui, mais tellement qu'il le réalise dans sa chair. Vous voyez, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on a des petits dépliants sur le Saint-Suaire, et ça serait peut-être bien pour la mission qu'on en fasse un, voilà, sur le Saint-Suaire, bien montrer qu'il est vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité. Alors, il y a aussi une chose, hein, c'est que, vous voyez, nous, dans le péché, il y a aussi le péché originel, mais la conséquence, c'est qu'on est tous solidaires de ce péché. Alors que dans l'islam, non, on n'est pas responsable du péché de l'autre, hein, on est responsable que du sien. Donc ça montre bien que ça vient de nous. Donc l'homme est quelque part, on parlait d'anthropologie tout à l'heure, ça veut dire que dans l'islam, en fin de compte, l'homme est bon et mauvais. Eh bien, il n'y a pas d'anthropologie d'ailleurs dans l'islam. Ouais. Et l'homme n'est pas l'image, il y a la ressemblance de Dieu. Vous vous rendez compte que nous, on est 100% bons, des vrais jambons, ouais, tous, hein, des gros jambons, quoi, hein, non, des vrais jambons. Et puis, on est bon à 100%. Et en même temps, si vous voulez, c'est que, eh bien, on est fait pour la grâce. Parce qu'on parle toujours du péché originel, mais on ne parle jamais de la grâce originelle. Et donc, si on est 100% bon et qu'on vient de la main de Dieu, Dieu est 100% bon, il n'y a pas de doute. Dieu est tout amour et que amour, rien d'autre. Et que le péché est, en fin de compte, une absence, hein, de l'amour. Et en fin de compte, l'inverse de faire sa volonté. Dieu, eh bien, n'est pas l'auteur du mal, il n'en est pas le complice. Non, non, c'est nous le complice. Oui, un point important aussi, c'est que, vous voyez, ce qu'on n'ose pas dire, c'est que je dis, tu sais, moi, je suis sûr du salut parce que je repose ma vie sur celui qui a vaincu la mort. Toi, qui a vaincu la mort pour toi ? Il ne faut pas avoir peur de laisser des temps de silence. Et insister à nouveau, toi, qui a vaincu la mort pour toi ? Mahomet, il est mort. Super mort. Alors, je ne vais pas lui dire comme ça. Si, ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend des personnes. C'est-à-dire, surtout, je vais lui dire, si c'est des personnes qui sont bonnes, gentilles, simples, pas violentes, je vais leur dire, mais tu sais que Mahomet, il est mort. Il est super mort. Hein. Je vais dire les mêmes mots. Mais... Et puis, si le gars, il est à fond dans son truc, je lui dis, mais Mahomet, il est mort. Vous voyez, une fois, on a fait ça dans une cité, en plus. On n'était pas nombreux, quelques missionnaires. Et puis, le gars, il était à fond. Mais je lui dis, mais ton Mahomet, il est mort. Moi, mais tu m'insultes, il me dit. Ben non, pourquoi il n'est pas mort? Mais si qu'il est mort. Et après, si vous voulez, je lui dis, mais tu sais, je t'insulte pas, moi aussi. Jésus, il est mort. Mais il est ressuscité. Est-ce que tu as ça, toi, dans l'islam? Vous voyez, et ça, c'est toujours la deuxième partie de la question, ma réponse chrétienne. Et la troisième partie, ça va être de l'annonce. C'est-à-dire, pour moi, en tant que chrétien, Jésus, voilà, il a vaincu la mort, je repose ma vie sur lui, c'est pour ça que je suis sûr de mon salut. Voilà. Je ne suis pas sûr de moi, mais je suis sûr de mon Dieu. Et alors, s'il y a une façon d'être sauvé dans l'islam, c'est le djihad. À celui qui combat au nom de Dieu, eh bien, de grandes récompenses lui seront données au ciel. Au ciel. De grandes récompenses lui seront données, donc on a bien compris. Vous voyez ? Eh bien, vous voyez... Mais ça, on n'en sait toujours rien. Voilà. Donc, c'est en fin de compte, on met une carotte, mais on ne sait pas. Voilà. Moi, j'en suis sûr. C'est-à-dire que Jésus, eh bien, il a vaincu la mort, mais ce n'est pas simplement ça. C'est-à-dire qu'il nous donne le paradis. Il nous donne le salut. Voilà. Il est pour toi. Prends-le. Et en fin de compte, à quel moment on le reçoit ? Le jour où on est baptisé, sacrement du salut. Voilà. Celui qui croit en moi sera baptisé et sauvé. Voilà. Je te donne le paradis. Et ce qui est dingue, c'est qu'après, eh bien, je suis 100% responsable du salut qui m'est donné. Parce que Dieu ne va pas me sauver sans moi. Mais en même temps, tout est donné. Il n'y a pas de carotte. Voilà. Voilà. Je te donne un gâteau, à toi de le préserver. Voilà. Et si on va en enfer, c'est parce qu'en fin de compte, on s'est détaché du salut, on s'est dit, oh, ce baptême. Et puis, vous savez, il y en a même qui cherchent à être débaptisés aujourd'hui. C'est grave. Voilà. Ils n'ont peut-être pas réfléchi aux conséquences. Parce que, bon, le baptême, il restera. Hein. Ça, c'est une illusion de croire qu'on sera débaptisé. Mais quand même, au niveau de l'esprit dans lequel on vit ça, c'est quand même terrible. Voilà. Et donc, le salut nous est donné à 100%. Et en même temps, on est 100% responsable du salut qui m'est donné. Et ça veut dire quoi ? Ben, Dieu me remet debout. Il fait de moi un homme digne. Il remet l'homme dans sa dignité. La personne humaine a toute sa dignité. Parce qu'en fin de compte, bien sûr que tout est par la grâce. Bien sûr que tout est par la grâce. Mais il y a besoin de mon consentement. Dieu ne fait pas sans moi. C'est beau quand même. Vous voyez ? Alors que dans l'islam, en fin de compte, il faut accomplir des préceptes, etc. Mais le salut, avant, vous savez, il y a une autre question qu'on pose, c'est quelle est ta relation à Dieu ? Parce que c'est lié. Voilà. Parce qu'évidemment, le salut, il nous est donné par le baptême, mais si je n'ai pas de relation à Dieu, les portes du paradis elles vont finir par se refermer petit à petit, même si je suis baptisé. Hein. Par contre, il faut vivre, évidemment, cette relation à Dieu quotidiennement. Voilà. Et donc, c'est lié. Et le salut, justement, eh bien, petit à petit, je le reçois à 100% au baptême, mais je le préserve par cette relation que j'ai avec le Christ, jour après jour. Voilà. Et vous savez, je fais une aparté, il y a deux façons de savoir si Dieu est vivant en nous. Donc, vous pourrez faire l'expérience pour savoir si Dieu est vivant en vous. Et si vous dites, ah ouais, il ne doit pas être trop vivant là. Eh bien, c'est l'occasion de prendre ces deux éléments. Et si vous prenez ces deux éléments, eh bien, vous êtes sûr que Dieu est vivant en vous. Le premier, excusez-moi, parce que je vais parler comme un enfant, mais en fin de compte, c'est ça le royaume des cieux, hein, c'est pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. Et donc, c'est très très simple. Ce n'est pas de la haute théologie, hein, je suis désolé, mais le premier point, c'est aimer tout le monde. Jésus a aimé tout le monde. Ça ne se négocie pas. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir du mal à aimer parce qu'il faut pardonner, parce qu'on a été blessé, trahi, etc., outragé. N'empêche qu'il faut être dans ce désir du pardon, même si on n'arrive pas encore à le donner. Eh bien, il faut le demander à Dieu et demander à Dieu de pardonner en nous. Et plus on va avoir cette relation à Dieu, eh bien plus Dieu va vivre en nous d'une manière effective. Et à partir de là, il va nous donner cette grâce du pardon qu'on pourra donner. Mais on ne peut pas rentrer au paradis si on n'aime pas tout le monde. Voilà. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bah, si on est à la suite de Jésus, il faut dire les mêmes mots que Jésus. Mais pas les dire, les vivre. Voilà. Il faut vivre ce qu'on dit. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut aimer tout le monde. Le deuxième point, et si vous êtes même si vous avez encore du mal, être dans ce désir de demander à Jésus, apprends-moi à aimer tous. Même ceux qui m'ont trahi. Même là, c'est très difficile. Ouais. Et le deuxième point, savoir parler de Dieu. Savoir répondre de sa foi. Et vous pouvez vous donner une cadence. Hein, Alors je tiens ça d'un prêtre, hein, c'est un sermon. Et je l'ai retenu parce que j'ai trouvé ça très très vrai, très beau. Pourquoi j'ai trouvé ça beau ? Parce que c'est très vrai. Et le deuxième point, c'est simplement savoir parler de Dieu. Peut-être au moins une fois par semaine. Mais c'est énorme, hein. Ça me paraît énorme. Pour moi, ce n'est pas énorme, mais ça peut paraître énorme pour certains. Bah, dites-vous, une fois tous les 15 jours, allez. Mais savoir se dire, je vais parler de Jésus à quelqu'un. Ce n'est pas compliqué, hein. Surtout si, avec tous les musulmans qu'on a. Moi, c'est le premier que j'aborde, hein. Je vous dis, c'est le plus facile. Hein. Et donc, vous prenez les petites images du Notre Père, et dans le métro, n'importe où, vous lui dites, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes croyant ? Moi, je suis catholique, etc. Le petit blabla, là, l'introduction, quoi, évidemment. Et puis, lui dire, j'ai une belle prière à vous offrir, est-ce que ça vous intéresse ? Parce que je sens que vous avez la foi. Là, vous lui sortez la prière du Notre Père et vous lui donnez, vous dites, regardez, ça, c'est pour vous. Dieu, il est Père. Voilà. moi je suis son enfant. Est-ce que vous la voulez? Et puis là, de toute façon, vous n'avez même pas besoin de chercher, ça va partir tout seul. Avec une personne musulmane, vous n'avez pas besoin de broder. Hein. C'est-à-dire que lui, il va foncer, ouais, non, c'est pas possible, Dieu n'est pas père, il n'est pas ceci. Il vous dira tout ce que vous voulez, mais il va vous dire des choses qui font que la discussion va aller jusqu'au bout. Et si vous faites ça, eh bien, vous êtes sûr qu'à un moment donné, vous allez... Moi, j'ai une personne comme ça qui n'était pas à la retraite, mais si, à la retraite, mais qui venait d'être à la retraite, donc certain âge, et qui m'a dit un jour, oh là, je ne sais pas comment que ça se fait, mais je me sens bien dans ma foi. Je dis, ah bon? Ben ouais, ça ne m'est jamais arrivé. Et je lui dis, mais ça fait combien de temps? Elle me dit, oh, je ne sais pas, ça fait 5, 6 mois à peu près, je me sens bien là. Je lui dis, mais ça fait combien de temps que tu fais de la mission? Je lui dis, ben, ça fait 5, 6 mois. Voilà. Voilà. Eh bien, vous voyez, c'est très lié. Dire sa foi, eh bien, plus on donne, plus on reçoit. Mais ça, c'est d'autant plus vrai avec la foi. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, si vous sentez que vous fléchissez au niveau de la foi, c'est le carême. On cherche toujours des choses à faire pendant le carême. Bah, à mon avis, hein, le meilleur des carèmes, c'est la mission. Je presse pour ma paroisse, mais je culpabilise pas. Voilà. Mais c'est vrai. C'est très, très efficace. On se dit, je vais me mettre devant le Saint-Sacrement. Voilà, je vais avoir des grâces. Oui, bien sûr. Mais on ne reçoit pas Dieu pour soi-même et il va falloir le redonner. Donc, ce n'est pas une finalité en soi, il va falloir le redonner. Dieu ne se donne jamais à nous pour nous-mêmes, mais pour se donner au monde. S'il se donne à nous, c'est pour qu'on le donne au monde. Toujours. Donc, vous voyez, hein, ces deux principes, eh bien, ce n'est pas des principes, hein, c'est plus que ça. Hein. Aimer tout le monde et parler de Jésus. Parce que de semaine en semaine, de messe en messe, eh bien, le temps passe très vite. Et en fin de compte, au bout d'un an, bah, rien. Ouais. Et on peut même, je me permets de vous le dire, parce que vous n'êtes pas comme ça. Voilà, on essaye de ne pas l'être en tout cas. Mais on peut être mort dans sa foi tout en allant à la messe tous les dimanches. Voilà. Parce que bah, c'était un peu dit tout à l'heure, mais je veux dire, voilà, et il faut activer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 16 ans. Hein, j'ai reçu un coup de grâce. Voilà, mais pourquoi? Parce que, eh bien, Dieu, à un moment donné, je l'ai cherché. J'ai mis 10 ans. Hein. Il a mis 10 ans. Moi, je n'ai pas mis 10 ans. C'est lui qui a mis 10 ans. Il est long. Hein. Il est long. Hein. Bon, je demande s'il a mis son sonotone, s'il nous entend bien, vous savez. Et donc, en fin de compte, c'est ce que j'ai expliqué à cette jeune fille qui se tournait vers l'islam tout à l'heure. Il faut demander avec insistance de se révéler et de donner un signe. Mais il faut être très, très, très patient parce que Dieu, il veut approfondir cette foi. Il ne veut pas que ce soit de la curiosité, mais il veut que ce soit vraiment de la vérité. Voilà, qu'on ne pose pas des questions par curiosité, mais par vérité, par souci de vérité. Si tu cherches vraiment Dieu, il faut être insistant et demander. Peut-être ça dure un mois, deux mois. Aussi longtemps que ça soit, il ne faut pas arrêter de demander à Dieu un signe. Comme quoi, est-ce toi vraiment qui peux me sauver de la mort? Et il y a un point aussi important. Donc je vais lui dire, tu sais, Jésus, il a vaincu la mort pour moi. Et c'est aussi, la troisième partie de la question, c'est l'annonce. C'est aussi pour toi. Si tu veux être sûr d'être sauvé, si tu veux être sûr que les portes du paradis s'ouvrent pour toi, c'est possible. Mais pas quand tu vas mourir. Aujourd'hui, il suffit de dire oui au Christ. Oui, il faut le reconnaître comme le sauveur, comme celui qui a vaincu la mort. Et les portes du paradis s'ouvrent tout de suite devant toi. Après, il y aura un temps de cheminement, mais déjà, elles s'ouvrent. De plus en plus. Le jour où tu es baptisé, elles sont totalement ouvertes. Voilà. Il suffit, après, c'est un peu long, le pèlerinage sur terre, d'avancer vers cette porte qui est ouverte, grande ouverte. Voilà. Et une chose importante, voilà, c'est dans cette question, comment tu fais pour le paradis, il dit, mais tu sais, il y a le jugement. Le jugement, eh bien, il faudra rendre des comptes à Dieu. N'attends pas d'arriver là-haut pour que tu sois étonné de ce qui va se passer, commence aujourd'hui à demander à Dieu. N'attends pas là-haut. Parce qu'il te demandera quand même. Parce qu'on dit, ouais, Dieu ne nous demande rien, il nous pardonne. Non, non, non. Il n'y a pas de miséricorde sans justice. Il faut être dans la justesse pour qu'on puisse rentrer dans cette porte. Si on est de travers, on ne va pas pouvoir rentrer dans la porte. Ouais, on va passer à côté. Et donc, il faut de la justice. Et Dieu nous dira, qu'as-tu fait de moi? Et souvent, à la personne musulmane, je dis franchement, je dis toujours, le Christ te demandera, qu'as-tu fait de moi? Le Messie, je lui dis. Mais quand je lui dis le Christ, eh bien, il ne me dit pas non. Hein. Il ne dit pas, oh, bon, non. Ouais.
Encore 5 minutes. Je suis désolé d'interrompre Jean-Yves. On me dit qu'on va enlever les voitures qui sont sur la place. Donc, mais je, voilà, on dit de le dire parce que de, voilà, si on risque d'y avoir la fourrière qui passe. Donc, je vous le dis, pas pour vous stresser, mais pour ceux qui ont mis leur voiture sur la place, je pense que c'est le moment de la déplacer. Voilà.
D'accord. Bon, il dit ça parce qu'il sait qu'il y a ma voiture et que je décroche. Il est malin quand même. Donc, vous voyez, eh bien, je vais dire, tu sais, le Christ, il va te demander comment, qu'as-tu fait de moi? Et le musulman, il dit, ah ben non, mais de toute façon, moi, je savais pas que c'était toi le sauveur, c'était toi qui m'ouvrais les portes du paradis. Qu'as-tu fait de la vérité qui est en Dieu? Il suffit pas d'être musulman, chrétien, même chrétien. Il faut se poser la question de la vérité. Et donc, faut pas croire simplement en Dieu, il faut avoir la foi. C'est la grande différence. C'est quoi la foi? Eh bien, c'est de croire en la révélation. C'est répondre simplement à cette révélation divine. La croyance, c'est de croire à ce qui nous est donné de Dieu d'une manière naturelle. On peut croire à des tas de choses. On peut croire au communisme, on peut croire... Voilà, et l'islam n'est pas une révélation en tant que telle, mais c'est une autre question. Mais vous voyez, le jugement, c'est très important. Et savoir qu'il faudra rendre des comptes à Dieu. Et tu sais, Jésus, il nous dit simplement, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et ça, c'est une question, et c'est une parole de Jésus qu'il faut dire aussi à toutes les personnes catholiques. Dire, mais vous savez, les musulmans ne sont pas exclus du salut. Et donc, si elles ne sont pas exclues, elles sont appelées à regarder vers la croix, et il n'y a que vous qui pouvez lui dire. Il n'y a que vous qui pouvez lui annoncer. Et si vous êtes si vous ne le faites pas, vous êtes responsable. Parce que là-haut, Jésus il vous dira pour vous, qu'as-tu fait de ton frère? Et comme j'avais dit une année, je ne sais pas quand, mais je vais le redire parce que c'est très vrai, je pense. Vous savez, moi, mon voisin, il est tunisien. Voilà, il est musulman, par tradition. Bon, il fait son ramadan, etc. Il ne va pas à la mosquée. Mais en même temps, imaginez, un jour, je vais faire des courses avec lui. Et puis, la voiture, paf, on a un accident, on meurt tous les deux. Et on se retrouve devant la porte du paradis, on se retrouve devant le Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Ben simplement, lui, il va me dire, il va me regarder, il va me dire, toi, tu savais que c'était le Christ et tu ne me l'as pas dit. Tu savais que le Christ est la résurrection et tu ne me l'as pas dit. Tu savais que Jésus est la vérité et tu ne me l'as pas dit. Tu savais que Jésus, c'est le chemin et tu ne me l'as pas dit. Et je crois que ça sera encore plus humiliant. Vous savez, eh bien, ce jugement de mon voisin que le jugement de Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule vie sur Terre. Je pense qu'on connaît tous une personne musulmane, même, parce qu'on dit toujours, moi, il y a quelqu'un, c'est un curé de paroisse qui m'a dit, « Oh ben non, mais nous, on n'est pas concernés. » Ah, oui, mais si vous n'êtes pas concernés aujourd'hui, vous serez concernés demain ou dans 10 ans, parce que vous n'avez pas été dans la mission. Donc, ils ont avancé. Parce que s'il n'y a pas d'islamisation... S'il n'y a pas d'évangélisation, il y a l'islamisation. Il n'y a pas d'alternative. Et ça, il faut bien le comprendre. Vous voyez ? Et si on comprenait ça vraiment profondément, eh bien, on serait tous les week-ends en mission comme les Gilets jaunes. Non, mais il fallait la sortir. Non, mais je veux dire, pourquoi ils sont dans la rue tous les week-ends ? Parce qu'ils sont en train, ils n'arrivent pas à finir à la fin du mois, ils se rendent compte que c'est le péril pour eux, pour leurs enfants, etc. Nous, on ne s'est pas aperçu que c'est le péril, et pourtant, il est là. Et si on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, demain, il sera trop tard. Et donc, je ne parle pas de tous les week-ends, mais allons. Parce que n'ayons pas, après ces paroles amères, qui diraient « Ah, si j'avais su !» Non, c'est trop tard. Et puis, en même temps, même au-delà du péril, au-delà de tout, quand même, l'annonce du Christ, c'est quand même un commandement de Dieu. Annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Comment on peut fouler cette parole du Christ? On l'entend à la messe et puis on repart chez soi Et puis, on nous a peut-être même parlé de mission pendant le sermon, etc. Mais moi, j'ai eu des dimanches. Vous savez, il y a un dimanche ou un week-end ou une semaine de la mission. J'étais dans une paroisse et puis, en fin de compte, une très belle paroisse, hein, très digne, tout ça. Pas un mot sur la mission. Moi, je vous dis, je ne suis pas retourné. Hein. C'est fou. Et des fois, on parle de la mission en disant, bah oui, c'est de faire des belles œuvres. Bah non, alors là, on est tout sauf chrétiens. Non, la première des missions, c'est d'annoncer ce qu'il y a de plus beau. Voilà. C'est bien d'aider les personnes, mais je crois qu'il faut plus qu'aider les personnes. Il ne faut pas simplement, vous savez, le proverbe, donner un poisson, mais lui apprendre à pêcher. Je ne vais pas lui simplement l'aimer, mais je vais plus que lui apprendre à aimer, mais je vais lui donner ce qu'il y a de plus beau, Jésus, la source de l'amour. Je vais lui donner la possibilité d'aimer par lui-même et de se laisser aimer de Dieu. Et de laisser Dieu aimer le monde à travers son cœur à lui. Et de lui montrer qu'il est unique aux yeux de Dieu. Car Dieu, même dans l'Ancien Testament, dit déjà, tu as du prix à mes yeux. Et c'est ça que je vais lui dire. Tu as du prix. Laisse-toi sauver par lui. Il va te redonner la vie, celle que tu as perdue au péché. Il va te la redonner. Eh bien, laisse-toi et appelle le Christ. Il veut venir à toi, mais il ne viendra pas à toi si toi, tu ne vas pas à lui. Demande-lui un signe. Amen.